Alors aujourd'hui, je vais vous lire de Sat-Prem, la genèse du surhomme. Le titre du chapitre, c'est « La sociologie du surhomme » qui parle de la cité du Nouveau Monde. Mais ces constructeurs du Nouveau Monde prendront bien garde de ne pas bâtir une nouvelle prison, fût-ce une prison idéale et bien éclairée. En fait, ils comprendront, et vite, que cette cité de la vérité ne sera pas et peut-être pas tant qu'ils ne seront pas eux-mêmes et totalement dans la vérité, et que cette terre à bâtir est d'abord et avant tout le terrain de leur propre transmutation. On ne triche pas avec la vérité. On peut tricher avec les hommes, faire des discours et des déclarations de principe, mais la vérité s'en moque. Elle vous attrape sur le fait et à chaque fois vous jette votre mensonge à la figure. C'est un impitoyable phare, même s'il est invisible. Et c'est très simple. Elle vous attrape dans tous les coins et tous les tournants, comme si cette vérité de la matière, elle démolit tous vos plans, entrave vos gestes, vous met subitement devant un manque de matériaux, un manque d'ouvriers, un manque d'argent, suscite cette révolte, dresse les gens les uns contre les autres, sème l'impossibilité et le chaos, jusqu'à ce que soudain, le chercheur comprenne qu'il faisait fausse route et qu'il construisait la vieille bâtisse mensongère avec des briques neuves et secrétait son petit égoïsme, sa petite ambition, son petit idéal, sa mise en idée du vrai et du bien. Alors, il ouvre les yeux, il ouvre les mains, il se raccorde à la grande loi, laisse couler le rythme et se fait clair. Clair et transparent, souple à la vérité, au n'importe quoi qui veut être, n'importe quoi, mais que ce soit ça. Le geste exact, la pensée juste, le travail vrai, la vérité pure qui s'exprime comme elle veut, quand elle veut et de la façon qu'elle veut. Une seconde, il s'abandonne. Une seconde, il appelle ce monde nouveau, si nouveau qu'il n'y comprend rien, mais qu'il veut servir, incarner, faire pousser dans cette terre rebelle. Et n'importe quoi qu'il pense, ce qu'il en sent, ce qu'il en juge, oh, qu'importe, mais que ce soit la vraie chose, la seule chose voulue et inévitable. Et tout bascule dans la lumière en une seconde. Tout devient possible instantanément. 100 fois, 1000 fois, il fait l'expérience à tous les niveaux, personnels, collectifs, dans ce battant de fenêtres qu'il ajuste pour sa chambre et dans le million subi qui tombe du ciel pour construire un stade olympique. Il n'y a pas jamais de problème matériel. Il y a seulement des problèmes intérieurs. Et si la vérité n'y est pas, même les millions pourriront sur place. C'est une fabuleuse expérience de toutes les minutes, une mise à l'épreuve de la vérité. Et plus merveilleusement encore, une mise à l'épreuve du pouvoir de la vérité. Il apprend pas à pas à découvrir l'efficacité de la vérité, la suprême efficacité d'une petite seconde claire. Il entre dans un monde de petites merveilles continues. C'est la seule loi de la cité de l'avenir, son seul gouvernement, une vision claire qui s'accorde à l'harmonie totale et qui traduit spontanément en acte la vérité perçue. Les faussaires sont automatiquement éliminés par la pression même de la force de vérité, refoulés comme le poisson par excès d'oxygène. Et si un jour ces 10, ces 50, ces 100-là pouvaient bâtir une seule petite pyramide de vérité, dont chaque pierre aurait été posée avec la note juste, la vibration juste, l'amour simple, le regard clair et l'appel du futur. En vérité, la cité entière serait bâtie, alors qu'ils auraient bâti en eux-mêmes l'être du futur. Et peut-être la terre entière s'en trouverait-elle changée. Parce qu'il n'y a qu'un corps, parce que cette difficulté de l'un est la difficulté du monde, cette résistance, cette obscurité de l'autre sont la résistance et l'obscurité du monde entier. Et que cette toute petite entreprise d'une petite ville sous les étoiles est peut-être l'entreprise même du monde, le symbole de la transmutation, l'alchimie de sa douceur, la possibilité d'une terre nouvelle par la seule transfiguration d'un coin de terre et d'un coin d'homme. Il est probable que pendant longtemps, cette cité en construction sera un lieu où les possibilités négatives seront comme exacerbées, autant que les possibilités positives sous l'influence et la pression du phare de vérité. Le mensonge a l'art de s'accrocher à d'infimes détails. La résistance s'agglutine à des banalités insignifiantes qui deviennent le signe même du refus. Le mensonge sait faire de grands sacrifices. Il sait se discipliner, idéaliser, entasser des mérites et des bons points. Mais il se trahit dans le minuscule. C'est son dernier repère. C'est dans la matière vraiment que la partie se joue. Cette cité de l'avenir est vraiment un champ de bataille, une difficile aventure qui ne se décide pas là-bas avec des mitrailleuses, des guérillas et des hauts faits, mais qui se décide ici avec de sordides détails et une invincible guérilla du mensonge. Mais une seule victoire sur un petit égoïsme humain est plus lourde de conséquences pour la Terre que le remaniement de toutes les frontières de l'Asie. Car cette frontière-là et cet égoïsme-là sont le barbelé originel qui divise le monde. L'apprenti surhomme pourra-t-il commencer sa bataille très tôt, non seulement en lui-même mais dans ses enfants, et non seulement à la naissance de l'enfant, mais dès sa conception. Parce que le principe évident, naturel, est qu'un enfant ne comprend rien et qu'il faut lui apprendre à vivre. Mais il se pourrait fort bien que l'enfant comprenne très bien, même si ce n'est pas conforme à nos structures, et que nous lui apprenions seulement à enterrer sa connaissance pour la remplacer par une science toute faite qui l'enterre pour de bon. Et nous passons 30 ans de notre vie à défaire ce qu'ils ont fait, à moins que nous ne soyons un sujet particulièrement réussi, c'est-à-dire un emmuré définitif, consentant, poli et diplômé. Une forte partie du travail consiste donc non pas à faire, mais à se défaire de cet envoûtement. On nous dira que cette lutte est plus fructueuse, qu'elle nous enrichit, fait nos muscles et notre personnalité, c'est une fausseté. Elle nous durcit, elle nous fait des muscles militants et nous risque de nous avancer dans un contre aussi nocif que le pour. Et par-dessus le marché, elle ne nous fait pas une personnalité, mais un masque. Car la vraie personne est là, toute là, candide et grande ouverte, dans le regard d'un enfant qui vient de naître. On y ajoute seulement la misère de la lutte. Nous croyons formidablement, intensément, aveuglement, en le pouvoir de la souffrance. Le sceau subconscient de notre civilisation occidentale depuis 2000 ans. Et peut-être est-elle nécessaire, vu l'épaisseur de notre substance. Mais la loi de la souffrance est une loi du mensonge. Ce qui est vrai sourit, c'est tout. La souffrance est le signe de la fausseté. Elle va avec elle, elle est le produit de la fausseté. Et croire que cette souffrance nous enrichit, c'est croire que la tuberculose est un bienfait des dieux. Encore, que la tuberculose puisse nous aider aussi à briser la carapace du mensonge. Les coups, en vérité et par nécessité physique, laissent leur contre-coup et font des délivrés au cœur brûlant, qui se souviennent d'avoir souffert. Ce souvenir-là est encore un voile sur le regard candide. La loi des dieux est une loi ensoleillée. Et peut-être toute l'œuvre de Sri Aurobindo et de Mère est-elle d'avoir apporté au monde la possibilité d'une voie ensoleillée où il n'est plus besoin de souffrance, de douleur, ni de catastrophe pour progresser. L'apprenti du surhomme ne doit pas croire en la souffrance. Il croit en l'enrichissement de la joie. Il croit en l'harmonie. Il ne croit pas en l'éducation. Il croit en le pouvoir de vérité qui est au cœur de toute chose et de tout être. Il aide seulement cette vérité à croître avec les moindres entraves possibles. Il a confiance en le pouvoir de vérité. Mais déjà dans cette cité, disons, dans ce laboratoire de l'avenir, l'enfant naîtra dans des conditions moins étouffantes. Il ne sera pas suggestionné, guetté dans tous les coins de rue par des affiches hurlantes, pas vicié, empoisonné par les cinémas vulgaires, pas encombré par toutes les vibrations d'angoisse ou de crainte ou désir que sa mère a pu soigneusement entasser dans son ventre avec des lectures distrayantes. Et quand la mère et le père décidaient d'avoir un enfant, ils le faisaient comme une prière, un sacrifice, pour qu'il incarne les dieux de l'avenir. Il suffit d'une étincelle d'aspiration, d'une flamme d'appel, d'une bouffée lumineuse dans le cœur de la mère, pour que réponde et se précipite la même lumière, la flamme identique, l'intensité de vie semblable. Et si nous sommes gris et neutres, nous appellerons seulement la grisaille et la nullité des millions d'hommes éteints. Alors, je vais terminer. Alors, il n'y aura plus de frontières dedans, dehors, plus de « je veux, je prends », plus de manque, plus d'absence, plus de moi tout seul et enfermé, plus de contre, plus de pour, ni de mal, ni de bien. Il y aura une seule suprême harmonie aux milliers de corps qui touche sa note dans celui-ci, dans celui-là, cette circonstance et cet accident-là, ce geste-là, et qui accorde tout dans un unique mouvement dont chaque minute est parfaite et chaque acte véridique. Une parole exacte, chaque pensée juste, chaque écrit rythmique. Chaque cœur à l'unisson, et la vie modèlera, et la vérité modèlera la matière selon la vibration juste. Et cette petite cité sans frontières rayonnera autour par son simple pouvoir de vérité, attirant ce qui doit être attiré, écartant ce qui doit être écarté, simplement par sa propre force de concentration, touchant ce point de l'univers ou cet autre, cette âme-ci, cette âme-là, répondant aux mille appels invisibles, émettant sans cesse sa haute note claire qui éclairera le monde et allégera les cœurs sans même qu'ils n'en sachent rien. Car telle est la vérité, si simple que personne ne la voit, si légère qu'elle court le monde en un instant, dénoue les nœuds, traverse les frontières et déverse sa merveilleuse possibilité au milieu de toutes les impossibilités au moindre appel. Là, chaque pensée, chaque sentiment est un acte, et chaque acte un symbole et un signe, et chaque symbole cache un pouvoir vivant. Sri Aurobindo, Savitri 2, 5, page 207. Alors, là, c'est la sociologie du surhomme, la genèse du surhomme de Satprem. Alors, je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et de Mère.